Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Nous serons en ligne dans un instant avec Étienne Menin, notre correspondant au Proche-Orient, qui suit depuis le début de la semaine les heurts et affrontements à la frontière avec Israël. L'administration Trump annule le catch and release, ce qui risque de militariser sa politique de lutte contre l'immigration clandestine. Explication de Claudia Bertram. Nous nous rendrons également aux abords de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Alentour se positionnent des escadrons de CRS et gardes mobiles en vue d'une évacuation programmée par le gouvernement. À la fin de cette édition, la Bulle Écho, Marie Viennot nous entretient de l'entrée en bourse cette semaine de la plateforme de streaming musical Spotify. Les règles d'engagement restent les mêmes, la mission aussi. Ce sont les termes de Jonathan Conricus, porte-parole des forces armées israéliennes. Le lieutenant-colonel ajoute, je cite, que l'écrasante majorité des gens blessés par balles ont été atteints aux jambes. Ça montre, dit-il, qu'on sait où on vise. Fin de citation. 9 morts et près de 500 blessés hier à la frontière entre Gaza et Israël. Bilan communiqué par le ministère de la Santé du Hamas depuis le 30 mars dernier. Ils sont des milliers de Palestiniens à se positionner à la frontière dans le cadre de la marche du retour des réfugiés. Ce matin, on apprenait le décès de Yasser Mourtaya. Bonjour Étienne Menin.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes à Gaza et notre confrère portait une veste sur laquelle, on le sait maintenant, on pouvait lire « Presse ».
On se voit sur une vidéo qu'un de ses collègues qui était à ses côtés à Khan Younes, au milieu de la bande de Gaza, montre sur son téléphone. On est à ce moment-là au début de la cérémonie pour les obsèques. Il y a eu des tirs par arme à feu devant sa maison, en l'air. Il y a une foule à la fois de journalistes, mais de représentants également du Hamas. Et le corps de ce jeune journaliste est transporté jusqu'à l'ambulance qui va aller à la mosquée avant l'enterrement. Et sur ce corps, il y a ce gilet pare-balles bleu, donc siglé presse, blanc de façon significative, c'est visible et ça ressemble d'ailleurs à la signalisation qui est utilisée par les correspondants étrangers également. Souvent les gilets sont bleus et souvent ils ont donc cette couleur blanche pour signaler de loin que c'est un journaliste qui officie. On est là sur ce moment de recueillement, il y a des gens qui vont venir et qui parlent de lui. Il y a aussi cette idée que finalement les journalistes ici ne sont pas protégés ni par leur fonction, ni par leur gilet. Ce que dit l'une des collègues de ce jeune homme qui travaille pour la télé koweïtienne, c'est qu'il n'y a pas de respect pour la fonction de journaliste ici. Ils sont plusieurs à avoir été blessés. D'après le syndicat des journalistes de Gaza, ils étaient 5 blessés hier, simplement sur la journée d'hier. Lui a été touché au niveau haut, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une blessure qui a visé les jambes, comme pour la plupart des blessés hier. Il a succombé à ses blessures. Ce que dit le collègue qui était avec lui également à Khan Younes, c'est qu'il n'était pas dans une position non identifiable. La rumeur au début a couru qu'il pilotait un drone qui aurait pu être interprété comme de l'espionnage ou comme quelque chose d'un peu plus agressif vis-à-vis des Israéliens. Il y a des drones, la société pour laquelle il travaille a un drone, mais explique son collègue, lorsqu'il pilote le drone, il est très en retrait par rapport aux événements. Il n'était pas en train de piloter un drone, dit ce témoin. Il était près de la foule, avancé dans le périmètre à risque, mais à quelques centaines de mètres quand même de la frontière. Il avait une caméra qu'il avait posée sur un trépied. Il était donc dans la position d'observateur, comme la plupart des journalistes ici. Et malgré cette position d'observateur, il a donc été visé, touché, et il est décédé des suites de ses blessures.
Merci infiniment, Étienne Menin. Merci de vos précisions. Vous étiez en direct de Gaza. Hier, les États-Unis ont de nouveau bloqué une demande du Koweït, membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Koweït souhaite une enquête indépendante, souhaite qu'une enquête indépendante soit diligentée sur ces drames à la frontière entre Gaza et Israël. L'armée syrienne multiplie depuis hier les raids aériens sur Douma, ultime enclave combattante de la Route orientale. 8 civils sont morts ce matin à Douma, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La télévision d'État syrienne annonce, elle, que des bombardements rebelles ont tué 6 civils à Damas. Catch and release, traduction littérale, attraper et relâcher. Cette locution est l'une de ces fractures entre républicains et démocrates. L'ancien président, Barack Obama, avait d'ailleurs réinstitué cette doctrine, pourrait-on dire, qui consiste à autoriser un immigrant, à circuler sur le sol américain en attendant que la justice ne statue sur son sort. Catch and release vient d'être abrogé par décret à la demande de Donald Trump. Bonjour Claudia Bertram.
Bonjour.
Claudia, comment l'administration Trump va-t-elle mettre en œuvre cette promesse électorale?
Eh bien, c'est toute la question, Mathieu. La mise en œuvre risque d'être compliquée, faute de place dans les prisons. Depuis le début du mandat de Donald Trump, les services de l'immigration de la Maison-Blanche freinent les élans du président américain. Il n'y a pas suffisamment de centres de rétention pour loger tous les clandestins arrêtés, qui seraient plus de 11 millions sur le sol américain. Dans son nouveau décret, Donald Trump tente de contourner le problème. Il somme le Pentagone et le département de sécurité intérieure de recenser les installations militaires potentiellement utilisables pour détenir les immigrants illégaux. Une solution qui devrait soulever de nombreuses critiques chez les démocrates.
Mais pourquoi, Claudia, le président américain abroge-t-il cette doctrine, ce décret maintenant?
Cette décision intervient à quelques mois des élections de mi-mandat et le président américain veut remobiliser sa base électorale. Les républicains dénoncent depuis longtemps cette politique de catch and release. Donald Trump leur montre qu'il tient ses promesses. Il durcit le ton aussi pour faire oublier son échec à propos du mur entre le Mexique et les États-Unis. Par exemple, cette semaine, il a promis le déploiement de soldats à la frontière mexicaine. Hier, le secrétaire à la Défense, Jim Mattis, a signé le décret. 4000 membres de la garde nationale seront déployés, les premiers, dès la semaine prochaine. Reste à savoir si l'administration américaine aura les moyens d'appliquer ce nouveau décret, parce que les centres de rétention n'ont pas la place d'accueillir ces immigrants et les tribunaux risquent de ne pas avoir la capacité de traiter autant de dossiers.
Merci à vous, Claudia Bertram. L'ex-président brésilien Lula devrait assister à une messe dans une heure près de São Paulo. Messe en l'honneur de son épouse décédée il y a un an, jour pour jour. Messe au terme de laquelle Luiz Inácio Lula da Silva devrait se présenter au siège de la police fédérale de Curitiba. L'ancien leader du Parti des Travailleurs doit purger une peine de 12 ans de prison pour corruption. Il devrait être derrière les barreaux d'ailleurs depuis hier soir, mais les autorités font tout pour éviter de heurter les partisans de celui qui reste une icône de la gauche. Le gouvernement afghan prétend avoir éliminé un des hauts responsables du groupe État islamique, Qari Hekmat, tué dans une frappe de drone jeudi après-midi dans une province du nord de l'Afghanistan, là où le groupe État islamique se mesure aux talibans. Il est 12h37, vous écoutez le journal de France Culture. 6 personnes interpellées devant la faculté parisienne de Tolbiac. Ces 6 personnes gardées à vue s'étaient présentées hier soir devant l'entrée de l'établissement, batte de baseball en main, avec l'objectif d'en déloger les 300 étudiants qui occupent Tolbiac depuis 2 semaines et protestent contre la réforme du supérieur. La contestation se poursuit dans 3 universités au total. Hier, la ministre de l'enseignement supérieur n'excluait pas l'option d'examen en ligne. Ce matin, le président de la conférence des présidents d'université ne voit aucune raison de recourir à pareil dispositif. Le gouvernement est sur le point de procéder à l'évacuation de la zone d'aménagement différé de Notre-Dame-des-Landes, 3 mois après l'abandon du projet d'aéroport. 2500 gendarmes mobiles sont en train de converger dans ce coin de Bocage, près de Nantes, épaulés par des compagnies de CRS déployées à Nantes et à Rennes. L'intervention devrait avoir lieu la semaine prochaine, peut-être dès lundi, mais rien n'est confirmé. Sur le terrain, Grégoire Le Callot, les occupants s'organisent.
En apparence, tout semble habituel dans le Bocage, très calme, pas de déploiement de forces de l'ordre pour l'instant, à peine quelques camionnettes de gendarmerie qui circulent. Selon des zadistes rencontrés sur place, les gendarmes procèdent à des contrôles aux accès de la zone. Sur place, les occupants semblent affairés à leurs tâches quotidiennes. Aucun groupe n'a exprimé son intention de rejoindre la manifestation nantaise cet après-midi contre la politique du gouvernement, mais une assemblée générale a tout de même eu lieu hier soir dans la ZAD, et une autre est prévue demain. Le thème, organiser la résistance contre l'intervention. Une résistance déterminé, dit un texte du mouvement. Mais personne ici ne sait qui exactement sera visé par ces expulsions. La préfète de la région Pays de Loire a évoqué, je cite, « ceux qui sont réfractaires à tout », notamment à la proposition du gouvernement de s'inscrire dans des projets agricoles individuels, proposition qui jusqu'ici n'a recueilli officiellement aucun candidat. Par ailleurs, certains occupants, comme les agriculteurs dits « historiques », bénéficient de conventions d'occupation jusqu'en novembre 2018. Au total, les expulsions pourraient donc viser moins d'une centaine de personnes, mais les zadistes ont appelé à des renforts sur les réseaux sociaux et évoquent une manifestation de soutien lundi à Nantes.
30% des vols Air France annulés, le conflit s'envenime. Les 11 syndicats de la compagnie s'opposent à la direction qui refuse d'augmenter de 6% les salaires. La grève à la SNCF, grève par intermittence, elle reprend ce soir à 20h selon les syndicats, à 19h selon la direction. Hier, les partenaires sociaux ont quitté la table des négociations déterminés à poursuivre le mouvement. Anticiper pour prendre la mesure des mécontentements et incompréhensions, La République En Marche, le parti d'Emmanuel Macron, se lance dans la campagne en vue des élections européennes à 14 mois du scrutin. Une grande marche pour sensibiliser les électeurs aux enjeux d'un scrutin difficile pour les corps politiques. Le délégué général du mouvement En Marche, Christophe Castaner, est au micro de Stéphane Robert.
Cette grande marche, évidemment, s'inspire de la grande marche que nous avons conduite à l'été 2016. Avec le porte-à-porte, nous voulons toucher tous les Français. Au-delà de ces cercles bien informés, de ces cercles convaincus, nous voulons redonner la parole aux Français, qu'ils soient critiques, qu'ils soient inquiets, qu'ils soient indifférents. Nous voulons leur parler. Nous sommes conscients que le contexte politique nous ramène à une réalité que nous devons assumer. Les élections récentes, dans un grand nombre de pays, l'Allemagne, l'Italie, nous ont montré à quel point l'opinion publique est profondément clivée, profondément déchirée, profondément critique vis-à-vis de l'Europe. Le risque de voir émerger des forces contestataires, fortement anti-européennes, principalement d'extrême droite, est réel. Il convient donc d'avoir un discours politique qui prenne le pouls de cette réalité-là. Cette élection doit nous permettre le dépassement politique au niveau européen. Parce que nous avons cette volonté forte de rassembler tous les progressistes au-delà des clivages. Tous ceux qui partagent nos valeurs, notre ambition, notre projet pour l'Europe, quelle que soit leur origine politique.
Et cette grande marche conduite à compter d'aujourd'hui prendra fin le 9 mai prochain.
La bulle économique, Marie Viennot.
Ce fut l'événement de la planète boursière à New York cette semaine, l'entrée en bourse de Spotify. C'est aussi la bulle économique de samedi. Bonjour Marie Viennot.
Bonjour. Les médias l'appellent la licorne suédoise et son créateur le Mozart du streaming. De bien jolis mots pour désigner Spotify, leader mondial de l'écoute de musique en ligne, et son PDG, Daniel Ek, un programmateur précoce devenu milliardaire tout en réussissant l'exploit, excusez du peu, de sauver l'industrie musicale. Avant Spotify, lit-on souvent, on piratait. Aujourd'hui, on s'abonne ou on écoute de la musique entrecoupée de publicités. On dit ce modèle disruptif, légal et prometteur. Prometteur, il l'est clairement pour la bourse de New York qui, cette semaine, a valorisé Spotify à 26 milliards de dollars alors que l'entreprise n'a jamais gagné d'argent. 26 milliards de dollars, c'est 10 de plus que ce que rapporte la musique chaque année au niveau mondial. Alors comment une entreprise de 3000 salariés peut valoir plus que le secteur sur lequel elle opère? Cette question devrait nous mettre la puce à l'oreille sur la nature réelle de Spotify qui n'a rien, mais rien d'une entreprise mélomane. Cela, on le comprend très bien à la lecture du document de 186 pages que Spotify a dû rédiger avant son introduction en bourse. Ce qu'il y a dans le moteur de Spotify, ce n'est pas de la musique, mais 159 millions de MAU, des Monthly Active Users, des utilisateurs actifs mensuels. Si vous êtes abonné ou que vous avez utilisé Spotify plus d'une milliseconde le mois passé, vous êtes un MAU. Et c'est vous la promesse, le potentiel de marché de Spotify. Qu'il y a à vendre, ce sont vos données, votre temps de cerveau disponible et aussi l'argent que vous voudrez bien dépenser pour la musique. Le problème, c'est que chez Spotify, les abonnés rapportent peu, 5,30€ en moyenne, et qu'ils sont une minorité, 71 millions, à comparer aux 92 millions d'utilisateurs non payants. Autrement dit, on continue à écouter de la musique gratuitement. Non, pas gratuitement, me direz-vous, financée par la publicité. Eh bien non, la publicité rapporte 416 millions d'euros en 2017 à Spotify, c'est à peine 10% de ses revenus. Quand 60% des utilisateurs rapportent 10% du chiffre d'affaires, on comprend qu'il y a un problème. Non, 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 pas de problème, dit Spotify, c'est notre stratégie. En donnant accès à un catalogue de 35 millions de titres gratuitement, on peut espérer gagner de nouveaux abonnés. D'accord, mais qui supporte le coût d'acquisition de ces futurs abonnés payants? Qui paye pour cette stratégie? Pas Spotify, les producteurs de contenu, c'est-à-dire les musiciens, dont on comprend qu'ils ne puissent pas gagner leur vie dans ce système. Beaucoup d'artistes l'ont dit, ont résisté, puis cédé, comme Radiohead, Francis Cabrel et Björk, qui accompagnent en musique cette chronique depuis le début. On aurait bien aimé savoir, à l'occasion de cette entrée en bourse, combien Spotify paye pour avoir accès légalement à un catalogue aussi vaste. Repassez, pour les détails, vous n'en aurez pas. Vous n'aurez qu'un chiffre, toujours le même, insignifiant. Depuis sa création, Spotify a versé 8 milliards de dollars aux artistes, aux labels et aux éditeurs. Est-ce beaucoup? Est-ce peu? Rassurez-vous en tout cas si vous possédez des actions Spotify. L'entreprise assure qu'elle paye généralement le minimum possible aux producteurs et qu'elle continuera à le faire pour atteindre une cible ambitieuse de marge opérationnelle. Les artistes seront ravis de l'apprendre. Peu importe en fait le mal est fait. Les artistes musiciens maintenant se sont fait une raison. Pour la plupart d'entre eux, il est maintenant acquis que l'écoute en ligne ne paye pas et que si leur musique permet à quelqu'un de récupérer de l'argent par-ci ou par-là, là, ils ou elles n'auront droit qu'à des miettes. C'est ça, le vrai impact de Spotify dans le milieu musical. Y a-t-il de quoi tresser des lauriers à son fondateur ? Peut-être plus sûrement de lui balancer, comme ses artistes, hashtag
I respect
music.
I respect
music.
I respect
music.
Ainsi se referme la bulle éco. Retrouvez sur franceculture.fr les grandes lignes météo de l'après-midi. Une perturbation arrive par l'ouest, ciel chargé de la Bretagne jusqu'aux Pyrénées. Belle journée ensoleillée sur l'est et le nord-est. Cette édition a été préparée avec François-Charles Domergue, à la technique Clément Daté.